Bon, bonsoir à tous. On va attendre que d'autres personnes arrivent. Je suis très contente d'accueillir Philippe Caron ici ce soir pour donner une conférence dans le cadre du cycle que nous organisons avec les écoles doctorales. Et comme le disait Philippe tout à l'heure en aparté, en effet, il a été un des pionniers de l'organisation de ces conférences. Donc c'est à titre amical aussi. Et avec non pas sans une certaine émotion que nous t'accueillons ce soir, Philippe. On a passé des beaux moments ensemble. On aurait beaucoup d'aventures à raconter, en particulier sur le conférencier qui n'est jamais arrivé. Un jour de grève, coincé à Châtellerault, on a été obligé de prendre, d'aller en voiture pour le rassurer parce qu'il était dans une crise d'angoisse. Parce qu'il ne pouvait pas arriver à Poitiers, et il n'avait qu'une envie, c'était retourner à Paris. Enfin bref, je ne donnerai pas son nom, mais nous ne l'avons pas réinvité, hein, bien entendu, parce qu'on a vraiment vécu un moment très difficile. Et voilà, donc le titre est intéressant aussi pour nous, hein, Philippe, puisque comment les lettres et les sciences ont divergé en France, ça fait partie aussi des approches de la culture scientifique, des questions qu'on se pose sur la culture en général, à savoir que sont devenues nos humanités. Et bien entendu, quand on est linguiste, c'est une question clé. Donc Philippe, tu es professeur de linguistique française au département de lettres, faculté des lettres et langues, université de Poitiers. Je pourrais en dire plus, mais je te passe la parole et je te remercie encore beaucoup.
Bien, je vous remercie d'être là. Il faut que les conférenciers aussi... congratule leur auditoire à cette heure-là du soir. Parfois, certains n'osent pas venir parce que c'est trop près de l'heure du dîner et leur estomac déjà crie famine. Donc, je vais essayer de vous faire oublier que peut-être vous avez déjà faim. Et mon propos va consister en fait à essayer de revenir par le biais de l'histoire sur l'histoire de cette dichotomie qui est très affirmé dans la culture française, moins ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Donc mon propos va consister à remonter jusqu'au commencement de cette antonymie, de cette opposition, et d'essayer de voir dans quelles conditions socio-historiques ça s'est mis en place. Je reviens en arrière sur ce que nous avons fait, Anne Bonnefoy et moi, de 2003 à 2007. Si on a mis en place ces conférences régulièrement, c'est parce que nous pensions qu'il était important de ne pas avoir le nez dans le guidon quand on faisait un travail de recherche, mais de prendre de la hauteur. Et le but, c'est de prendre conscience qu'une recherche de quelque discipline qu'elle soit, elle est toujours installée dans un espace-temps donné et dans des conditions socio-culturelles qui ont présidé à la séparation des disciplines, à leur mise en place, à leur institutionnalisation. Et je dois dire que j'ai toujours été passionné par ce qu'on a fait, Anne et moi. Je n'ai jamais manqué une seule conférence. Et je crois que j'y ai appris énormément, y compris aussi cette passion de l'espace Mendès France pour la vulgarisation des idées scientifiques. Et ça, c'est une chose magnifique. Donc merci, Anne, d'être toujours là, fidèle au poste. Alors, je vais vous expliquer... assez rapidement comment je peux vous parler de ce genre de choses avec le recul de ma culture. Je suis linguiste et très rapidement, après avoir fait une agrégation de lettres classiques, j'ai pris un poste de linguistique française. Et ma thèse principale a porté sur ce sujet. Je vais vous expliquer un peu comment j'en suis venu là. En fait, au départ, ce que je voulais comprendre, vous savez, un peu comme Newton avec la pomme là, qui se demande mais pourquoi est-ce que la pomme qui descend d'une branche tombe-t-elle par terre plutôt que de monter ? Et mon idée était la suivante. J'ai fait un certain nombre d'années dans le secondaire où j'ai suivi des cours de littérature et ce que je voulais comprendre, en fait, c'était comment la littérature, le mot littérature, en était venu à ne plus désigner qu'une triangulation de textes qui sont en gros le théâtre, la poésie et le domaine de la littérature narrative fictionnelle, en gros le roman. Et donc, en tant que linguiste, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier la mouvance, ou si vous voulez, la migration du mot littérature depuis un sens extrêmement vaste jusqu'à, petit à petit, par comme une peau de chagrin, jusqu'à cette réduction qui est celle des manuels de littérature que l'on trouve dans le secondaire. Je renvoie à Lagarde et Michard, on voit très bien que c'est autour de cette triangulation que tournent les textes qu'on étudie. Donc je suis parti de là, et de proche en proche, je me suis rendu compte évidemment qu'il était hors de question de n'étudier qu'un mot, parce que en tant que lexicologue, j'ai très vite compris qu'il fallait que je prenne en fait un ensemble de mots qui participent de la désignation de l'ensemble des parties du savoir. Ce qui fait que ce travail de thèse en fait a consisté à examiner le vocabulaire qui nomme les parties de l'encyclopédie. Et j'ai limité mon enquête à la période où le mot littérature en est venu à désigner ce que nous désignons aujourd'hui sous ce nom. Et c'est donc entre 1620 et la Révolution française que je vais essentiellement insister. Parce que c'est à cet endroit-là que se fait véritablement une révolution du terme qui en vient à désigner ce que je viens de dire. Une autre chose que j'ai croisée très vite, c'est que, vous voyez, cette dichotomie-là, elle n'est absolument pas du tout ancienne, elle est relativement récente. Si vous demandez à quelqu'un du XVIIe siècle, qu'est-ce que ça veut dire les lettres et les sciences, il aurait une espèce de drôle de réaction, parce que pour lui, les lettres et les sciences, c'est d'un certain point de vue la même chose. Donc, qu'est-ce qui fait et quelles sont les conditions qui ont amené la possibilité de dire les lettres et les sciences avec deux objets dans l'esprit totalement distinct. Donc c'est autour de ça que je vais intervenir. Mais auparavant, je voudrais faire un tout petit détour. Est-ce que ces représentations-là, elles sont encore actives aujourd'hui ? Ben écoutez, c'est hallucinant. J'ai fait 3 fois de suite cette conférence dans un master de Perpignan. Et la collègue m'avait infligé une punition, c'est qu'elle m'a dit « il faut que tu fasses un contrôle ». Alors là, j'ai cru que j'allais tomber par terre, je faisais une heure de conférence et il fallait que je fasse un contrôle. Donc comment je pouvais faire quelque chose qui ne soit pas complètement absurde ? Donc j'ai cherché et j'ai demandé aux étudiants « écrivez-moi un fragment biographique » dans laquelle vous allez me raconter comment vous avez vécu cette question de l'opposition entre les lettres et les sciences dans le secondaire. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, j'ai eu au total une centaine de ces essais, dont j'en ai amené un ou deux, et c'était stupéfiant. Les représentations étaient actives en plein, et je voyais ces étudiants au moment du lycée, dans une espèce d'indécision au moment de l'orientation, parce qu'il y avait les parents, il y avait les copains, il y avait les classes, il y avait les conseillers d'orientation. Et tout ça, ça faisait une espèce de stéréophonie dans laquelle ils étaient eux-mêmes perdus en se disant « Mais quelle est, moi, ma position ? Qu'est-ce que je veux faire, moi ?» Je vais vous lire juste quelques-unes pour la bonne bouche, et ensuite, évidemment, je procéderai au retour arrière dans l'histoire. Voici par exemple ce que dit un étudiant de master FLE, français langue étrangère. C'est une conception bien française à mon sens. Bien qu'étant étudiant en langue, à la grande surprise de beaucoup, j'ai fait un baccalauréat général scientifique. Ce choix, je ne l'ai pas fait seul. Ma mère, m'ayant toujours répété qu'il y aurait beaucoup plus de réussite si je faisais un baccalauréat scientifique que littéraire. Soit, j'ai donc préparé ce bac S, mais forcé de constater que mes notes étaient meilleures en discipline littéraire et que mes professeurs signalaient un très bon profil littéraire. Je ne prétends pas avoir décousu leurs pensées, mais je me suis bien aperçu du formatage qui est imposé par l'école française et de la dichotomie toujours présente aujourd'hui. Puis j'ai encore suivi les conseils de ma mère et suis parti à Lyon pour une licence de physique-chimie, car l'espagnol ne m'apporterait rien. Citation, j'imagine, de sa mère. Malgré le fait que je réussissais brillamment, ce n'était pas mon choix ni ce que j'aimais. Je pense sincèrement que nous sommes socialement et psychologiquement marqués par nos choix qui sont dirigés par nos parents, eux-mêmes formatés. Alors, je voudrais juste vous en citer un extrait d'une étudiante algérienne qui venait faire un master à Perpignan. Et voici ce qu'elle dit. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a le père et la mère. Des facteurs non négligeables ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et mon choix pour étudier la littérature en France est loin d'être une histoire du hasard. Hélas, tout a commencé en Algérie, mon pays natal. Je suis le fruit, amer ou sucré, je ne sais, d'un pluriculturalisme des plus beaux. Mon père est kabyle, ma mère est arabe. Dès mon enfance, je parlais déjà les deux langues. Tout était bien jusque-là. Mais un jour, juste un jour, a suffi pour métamorphoser les idées que je m'étais faites sur la littérature et la science. Mon père était de ces gens qui considèrent que la littérature est faite pour les nuls. Ma mère, quant à elle, était une femme qu'on pourrait appeler spirituelle. Elle croit à la force des mots, à la force du verbe, à l'idée que seule la littérature est digne de ce monde qu'elle jugeait ignoble avec les guerres et les conflits en l'occurrence. En effet, ce jour-là, mon père a menacé ma mère d'arrêter l'écriture et de se préoccuper plus des tâches du foyer. Elle pleurait en cachette. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de la venger. L'écriture, pour moi, est avant tout vengeance. Et c'est dans la littérature française que j'ai trouvé les réponses à mes questions. Alors, je pourrais vous en citer des tas. Ça avait quelque chose de poignant parfois. Je ne pensais pas que certains élèves et étudiants ensuite avaient été à ce point ulcérés, soit par les désaccords des parents, donc ça faisait une stéréophonie très cacophonique entre les parents, soit à l'intérieur des classes, soit entre les classes. Je passe sur les conseillers d'orientation qui disent « Ma pauvre fille, si tu fais des études littéraires, tu n'auras certainement pas de boulot. » C'est encourageant. Hein. Voilà. Je voulais simplement motiver ce que je vais vous dire en vous citant quelques-unes de ces tranches de vie extrêmement, parfois un peu sanguinolentes, hein, qui m'a été donnée de lire. Hein. Et qui m'ont fait dire que finalement, cette conférence n'était pas sans intérêt. Et chose aussi qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est que certains étudiants m'ont dit je vous remercie parce que c'est la première fois qu'il m'est donné de m'exprimer sur cette question. Agréable quand même. Bon, j'en ai terminé. Et maintenant, donc, j'en viens à l'essentiel de mon propos, c'est-à-dire comment un spécialiste comme moi d'histoire de la langue, pendant cette période où j'ai été essentiellement un lexicologue, peut-il raconter au travers des signes et de leur évolution, des signes linguistiques et de leur évolution, comment peut-il raconter l'histoire donc de l'encyclopédie dans sa version française? J'ai donc pris très largement les mots comme philosophie, comme science, lettres, comme art mécanique, arts libéraux, j'ai ratissé très largement ce lexique, j'en ai fait donc mon laboratoire, et ensuite j'ai étudié le fonctionnement de ces mots dans le plus vaste spectre possible de textes, des textes qui la plupart du temps étaient très peu connus, vous savez, des discours académiques qui étaient perdus dans des recueils, vraiment, vraiment perdus, dans des lettres, dans des dictionnaires, dans toutes sortes de documents. J'étudiais les tables des matières, des livres qui parlaient de sciences et de lettres. Et c'est maintenant de cela dont je vais vous parler. Donc je n'ai pas besoin de vous dire que le lexique d'une langue reflète la structuration d'une civilisation, même imparfaitement. Et je voudrais juste faire un tout petit saut sur l'anglais pour vous montrer qu'un mot comme « science » en anglais a une évolution tout à fait décalée par rapport au mot français qui, comme je vous le montrerai tout à l'heure, dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, il est clair que « science » est déjà en train de devenir spécialisé dans les sciences de calcul et d'observation et d'expérimentation. Voici ce que dit Wikipédia, pardonnez-moi, c'est peut-être pas forcément la... J'ai cherché ça cet après-midi en me disant, tiens, il faut que je regarde quand même un petit peu, je le savais déjà, mais... The word science meant any kind of well-established knowledge and the label of scientist did not exist. Avant 1834, science n'a pas du tout migré, il est encore tout à fait généraliste. Et d'autre part, le terme philosophie peut très bien englober encore très largement au XVIIIe siècle jusqu'au début du XIXe ce qu'on appelle natural philosophy, c'est-à-dire en fait le domaine des connaissances sur l'univers. Donc, compte tenu que ailleurs les choses ne se passent pas de la même manière, qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? Je remonte un tout petit instant à la Renaissance pour vous montrer quelques-unes de ces structurations héritées, celles sur fond desquelles les nouvelles structurations qui vont nous amener à l'opposition, les lettres et les sciences, c'est sur ce fond-là qu'elle se profile. Donc vous avez une tradition gréco-latine des sept arts libéraux qui est toujours active dans le cerveau d'un homme du XVIe siècle. Elle est active. Vous avez une opposition entre les arts libéraux et les arts mécaniques. Ce qu'on appelle les arts mécaniques, ce sont les métiers de la main, le batteur d'or, le porcelainier, la gantière, le couturier, bref, tous les métiers artisanaux. Vous avez une opposition qui, pour nous, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, n'apparaît pas du tout cardinale, mais qui est très très forte à cette époque-là, c'est l'opposition entre le domaine des lettres sacrées, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'héritage, ou si vous voulez, le domaine de la révélation chrétienne, pour l'essentiel la Bible et son commentaire, avec peut-être par voie de conséquence aussi tout ce qui gravite autour de l'écriture sainte, c'est-à-dire ce que la théologie peut en dire, et puis de l'autre, les lettres profanes, c'est-à-dire ce que l'héritage gréco-latin nous a livré, donc en matière de cosmologie, en matière de physique, en matière de médecine hippocratique, et on pourrait continuer comme ça, jurisprudence, grammaire, logique, morale, autant de choses qui ont circulé plus ou moins bien jusqu'au XVIe siècle par l'intermédiaire soit des textes arabes, soit par l'intermédiaire de la copie des monastères. Il y a déjà cette opposition-là qui est très très nette entre les sciences plutôt spéculatives et puis les arts qui sont au contraire tournés vers la pratique. Et c'est sur ce paysage, là je n'ai pas le temps, donc je ne peux pas du tout m'attarder sur cette néologie d'art naissance. Ça serait tout à fait passionnant, ce qu'on appelle les bonnes lettres. Mais je crois qu'il faut que je sois raisonnable si on veut avoir le temps de parler un peu. Alors, au XVIIe siècle, c'est là que de façon cruciale va se mettre en place cette bipolarisation dont j'ai parlé. Et elle se profile comment ? Elle se profile de deux manières. D'abord, la révolution galiléenne développe évidemment avec elle toutes les sciences de l'expérimentation, de la vérification du réel. C'est le moment, début du XVIIe siècle, où Pascal va monter en haut, je crois, du pont du Cantal, je ne sais plus, pour vérifier la pesanteur de l'air. C'est à ce moment-là que se mettent en place aussi l'invention des premiers microscopes, c'est la découverte de la circulation du sang, c'est la mise en place des premières lunettes astronomiques. Donc ici, dans la foulée de la révolution galiléenne, vous avez un massif de disciplines qui va de petit à petit s'émanciper de la tradition gréco-latine et dire en gros: maintenant, je ne crois plus qu'à ce que je vois, à ce que je touche, à ce que j'expérimente. Et ce massif-là, comme je vous le montrerai tout à l'heure, va intéresser pas mal la royauté. Parce que là, vous avez des sciences qui positivement peuvent servir le royaume. Évidemment, la balistique, tout ça, ça peut être utile quand on fait la guerre. Et on pourrait ainsi, l'hydrologie, par exemple, ça peut permettre de monter de magnifiques jets d'eau à Versailles. Donc, vous imaginez que les sciences expérimentales, avec leur versant de pratique, sont extrêmement utiles pour la royauté. De l'autre, commence à s'individualiser ici une nouvelle culture du langage, des arts du langage, que cette expression, aujourd'hui très peu connue, mais les belles lettres, commence à fédérer. Donc, je crois que vous sentez déjà, au travers de ce que je viens de dire, comment deux massifs sont en train d'apparaître. Et le terme science, dont normalement la vocation est extrêmement vaste, en est petit à petit venu à se spécialiser de ce côté-ci. Ça, ce n'était pas du tout, comme vous l'avez vu en anglais, ce n'était pas du tout décidé de toute éternité. C'est un accident dont je parlerai tout à l'heure qui l'a particulièrement marqué, ce mot science. Et de l'autre, les belles lettres, c'est au fond une culture du langage essentiellement destinée à la cour, donc à la vie mondaine. C'est la culture du langage dans des genres qui, en gros, plaisent non pas à des savants, mais à des gens de peu de culture, comme pouvaient l'être les courtisans de la cour de Louis XIII et de Louis XIV. Donc ici, il s'est passé aussi une chose, c'est que ce qui va bientôt s'appeler les lettres va être marqué particulièrement en France de cette tendance à ne voir dans l'exercice du langage que le plaisir, le festin de l'imagination, le divertissement d'une cour. Donc on va de plus en plus voir au travers des belles lettres un prédicateur qui va faire un magnifique discours devant un magnifique prêche à Notre-Dame et qu'on va venir écouter beaucoup plus pour sa parole et l'artifice de sa parole que pour ce qu'il dit. Ça, c'est très français, ce qu'on appelle aussi le bel esprit. Les étrangers ne s'y trompent pas. Ça a été... je vous renvoie à un film qui s'appelle Ridicule, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, et qui est probablement l'une des illustrations les plus extraordinaires de cette culture française de l'esprit, ou du bel esprit, et qui s'incarne là-dedans, dans ce signe, qui s'appelle les belles lettres. Donc déjà, vous pouvez dire les belles lettres et les sciences. Ça, quand on dit au XVIIe siècle, les belles lettres et les sciences, les gens commencent à voir deux choses différentes. Et comme vous pouvez le voir, on trouve déjà un peu les premiers linéaments de ce que sera la littérature. Donc il ne faut pas que je m'éloigne trop de mon propos. Hein. Je vous laisse découvrir juste cette diapositive. J'ai pas trop l'habitude encore. Voilà, comme je le mets ici, au départ, le terme belles-lettres pouvait avoir une acception assez vaste. Et c'est au cours du XVIIe siècle que la philosophie, parce qu'elle n'est pas belle en soi, mais qu'elle est essentiellement un exercice de l'esprit, de quelque nature qu'il soit, et je vous rappelle que la philosophie, ça signifie encore au XVIIe siècle, en France, vous pouvez considérer que les mathématiques et la physique font partie de la philosophie, au même titre que la logique, la morale et la métaphysique, eh bien, ce massif-là de disciplines tend à disparaître de la référence du mot belles-lettres. Je ne sais pas si vous sentez, mais on sent très nettement qu'on est en train de voir s'individualiser deux pôles. Et ces deux pôles, au départ, ont l'air d'avoir un égal poids dans la société. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'il y a des disciplines qui, elles, ne sont absolument pas encouragées par le pouvoir royal. C'est tout ce qui permet la discussion. Parce que dans une civilisation absolutiste, comme est la civilisation des Bourbons, il y a des sujets un peu chatouilleux. Là, je pourrais en détail vous raconter comment l'Académie des sciences s'est élaborée. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, des sciences, on a fait disparaître l'histoire, c'est bizarre, mais aussi tout ce qui est logique, droit naturel, et toutes ces disciplines qui sont susceptibles de développer l'acuité intellectuelle et la remise en cause des dogmes d'un côté pour l'Église catholique, et du pouvoir monarchique de l'autre. Donc, je ne sais pas si vous sentez, mais là, il y a un ventre mou de disciplines qui n'ont pas du tout le vent en poupe, qui s'appelleront plus tard, peut-être un jour, pour certaines, les sciences humaines, mais qui ne sont pas encouragées parce qu'elles pourraient être le lieu du libre examen de l'esprit. Donc, voici comment les deux pôles se sont peu à peu élaborés, l'un par rapport à l'autre, et comment au milieu de ça, il y a un secteur qui va avoir tendance à n'être pas très développé, du moins dans sa partie spéculative, puisque la philosophie expérimentale sera cultivée à l'Académie des sciences. Témoin de cette bipolarisation, le fait qu'en 1699, la monarchie décide de donner un poids égal, le même nombre de pensionnaires, le même nombre d'étrangers, etc., entre l'Académie des sciences et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui s'appelait au départ, qui était la petite Académie et qui est devenue aussi importante. Vous voyez que ce qui se passe là, c'est que vous avez deux institutions qui sont totalement séparées l'une de l'autre. Et là, on sent venir la scission entre les deux. Pour vous donner un exemple, si on va maintenant à Berlin au XVIIIe siècle, l'Académie de Berlin, il n'y en a qu'une, et c'est à l'intérieur de l'Académie que vous trouvez une classe de philologie, tout ce qui concerne le langage, une classe de philosophie expérimentale, une classe de philosophie spéculative. Là, on peut discuter à Berlin, mais pas à Paris. Donc vous sentez que c'est pas le même modèle. En Allemagne, tout le monde coexiste, même s'il y a des spécialités. En France, vous avez deux grandes institutions qui sont principalement, je ne parle pas de l'Académie de chirurgie, enfin, il y en a d'autres qui naissent, mais ces deux-là ont un rôle et un poids égal. Alors, pendant le XVIIe siècle, la séparation est claire. Elle est institutionnellement prise en charge par le pouvoir royal, avec donc des académies distinctes. Le XVIIIe va commencer à voir se profiler des querelles entre ces deux secteurs. Et c'est ça qui va devenir particulièrement intéressant pour nous, parce que vous allez voir qu'en gros, ce que l'on dit au XXe siècle et au XXIe siècle sur les lettres et les sciences dans les classes, par exemple, on dit les élèves de classe scientifique disent que les élèves de classe littéraire ne font rien, que ce sont des dilettantes, hein. On a déjà entendu ça, hein. C'est un peu des batteurs d'estrade ou des danseurs de cordes, hein. Nous, les gens de science, nous sommes sérieux, hein. Eh bien, ceci s'élabore dès 1730. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché dans toute cette production obscure, beaucoup de discours d'académies de province ou d'académies parisiennes sur comment les sciences sont redevables aux belles lettres, etc. J'ai cherché tout ce qu'on disait sur les lettres et sur les sciences à partir de 1730. Et là, j'ai regroupé tout cela en une série de nébuleuses. Alors, je vais vous demander de regarder avec moi. On l'a vu tout de suite, la polarisation, hein. Et c'est ici donc que commence le débat. Alors voilà ce que j'ai trouvé. C'est une page de ma thèse. Vous voyez que c'est écrit comme ça pouvait l'être en 1987, quand on tapait encore sur des IBM à boules. Ça paraît très, très vieux, tout ça. Alors, intéressant, hein. Les belles lettres, ce qui sera bien sûr la littérature bientôt, c'est on se divertit. Des jeux, du badinage, de la variété, de l'amusement passager. C'est inutile d'ailleurs, à vrai dire. C'est superficiel, c'est puéril, ça peut être frivole. Et vous sentez que derrière ça, il y a la culture de cour qui est en partie considérée comme gratuite et un peu inutile. C'est agréable, hein. Voilà, c'est séduisant, c'est enchanteur, on a du plaisir, ça pique l'attention. Puis voilà, c'est exquis, c'est beau, un livre bien écrit, évidemment. Ça décore, et vous avez là tout un tas de descripteurs du style, le pinceau, les touches, le coloris de l'expression, la magnificence, la noblesse du style, c'est poli. Poli au sens de joliment dessiné, etc. Et puis aussi, ça viendra après, c'est le domaine de l'émotion. Ah. Les belles-lettres, c'est le domaine de l'émotion et de l'imagination. Alors je vous demande de garder un petit instant ces différents, ces nébuleuses, enfin c'est pas des nébuleuses, mais ces lieux attrait, délassement, plaisir, beauté, politesse, imagination, émotion. Et maintenant, en un tour de main, comme je suis un magicien, on va découvrir ce que c'est que les sciences. Alors les sciences, ma foi, c'est pénible, hein. C'est la sécheresse, les épines, c'est aride, tout ça c'est du vocabulaire que j'ai glané, hein. C'est une fatigante érudition, ça, mon Dieu, on a quand même vraiment du mérite, hein, de se lancer là-dedans, parce que d'épuisement, que de fatigue, que de lassitude, on s'ensevelit dans son bureau quand on étudie les sciences, et puis ces soins infinis, cette façon de se tourmenter l'esprit, le désespoir, enfin, on a l'impression de voir quelqu'un qui se triture la tête dans des exercices terribles. Et puis alors, l'espérance trompée, des théories qui ne marchent pas. Enfin, c'est de même ingrat, hein, les sciences. Ah, bon. Tout à l'heure, c'était du plaisir, hein. Je vous rappelle, maintenant, c'est de la peine. Et puis là, autant les belles lettres, c'était facile, c'était agréable. Ben là, c'est la difficulté. Alors, vous avez des métaphores incroyables que j'ai trouvées. Elles sont inaccessibles, elles sont aussi hautes que les cieux, elles sont escarpées. Bref, c'est un alpinisme de fou, hein, d'aller jusqu'au sommet des sciences. C'est une carrière immense, il y a des secrets, des dédales, c'est un labyrinthe. Toutes ces images, je les ai trouvées dans les textes. Vous voyez que c'est le XXe siècle, quoi. Nous, on est sérieux, vous vous amusez, hein, vous rigolez, qu'est-ce que c'est ces gens littéraires, là, c'est normal que vous n'ayez pas de travail, puisque de toute façon, vous ne faites que des choses absolument inutiles et vous dorez la pilule. Hein. On peut continuer comme ça. Donc, du côté des sciences, ah oui, tout à l'heure, c'était l'imagination. Ici, c'est l'exactitude. Donc, c'est la clarté, le calcul, la méthode. L'esprit philosophique, le fait de ne pas s'en tenir à ce qui a été dit, mais de remettre tout en question. L'analyse. La raison. Et enfin, ici, l'utilité. Ah, vous voyez, je vous promets que je ne pensais pas du tout trouver ça. Hein. J'ai été complètement stupéfié d'avoir l'impression que ce que j'avais entendu moi-même dans mon établissement secondaire, quand après avoir fait une première scientifique, j'ai décidé de faire une terminale de philosophie, enfin une terminale L. C'était ça, quoi. Vous voyez, je passe hein, la politesse, la beauté, le plaisir, la difficulté, l'utilité. Alors, ce qui se passe ensuite, à partir du XVIIIe siècle aussi, c'est que le mot « lettre », qui au départ signifiait en gros l'ensemble des connaissances, en est venu à devenir synonyme de belles lettres et plus tard de littérature. Et ça, il y a quelque chose dans le devenir de la vie intellectuelle en France qui est particulier. Et c'est au moment donc où le mot lettre devient synonyme de belles lettres que vous pouvez donc coordonner les lettres et les sciences. À ce moment-là, les contemporains, vers 1730, voient deux objets distincts. Est-ce que je suis clair là ? Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'il advient du mot littérature là-dedans ? Je vous rappelle qu'au XVIe siècle, si vous regardez le mot littérature dans un dictionnaire français-anglais comme Cotgrave, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est knowledge. Et learning. Vous voyez, tout est littérature. Et à la fin du XVIIe siècle, Fontenelle dit encore dans son premier tome de l'histoire de l'Académie des sciences, à propos des mathématiques, il dit « Dans ce genre de littérature, tout a changé de face. » Donc, ce qui va donc se produire et qui n'était absolument pas inscrit en quelque sorte dans le marbre des universaux, c'est que ce terme littérature va à son tour se spécialiser comme lettre dans ce qui concerne les arts de l'esprit et les arts du langage. Et c'est par conséquent ainsi que dans les Lagarde et Michard ou autres manuels de littérature du second cycle que vous avez peut-être connu, vous ne trouvez plus qu'un certain nombre de textes qui sont pour la plupart, je le disais au départ, du théâtre, de la poésie lyrique et du roman et des nouvelles. C'est quelque chose d'un peu stupéfiant. Enfin, vous voyez, c'est cette polarisation et petit à petit cette hiérarchisation qu'on a vue tout à l'heure d'une manière absolument soufflante, hein, cette hiérarchisation des choses. Et peu à peu, le fait qu'on réserve finalement les lettres uniquement au plaisir. Et les sciences sont au cœur de la vie sociale, au cœur des entreprises qui servent à quelque chose. Ça, ce n'était pas destiné, je pense, à être ainsi. Et ailleurs qu'en France, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc je voudrais simplement insister une dernière fois sur les conditions socio-historiques qui ont créé ça. C'est le fait que le pouvoir absolu des rois a généré du côté des lettres un côté art du langage, pas dangereux, agréable, se faire plaisir, dire un joli poème à une dame, faire un très joli prêche à l'église, et a complètement oublié ce qu'il peut y avoir de sérieux dans l'étude du langage, par exemple la grammaire et d'autres sciences du langage. Et de l'autre, le mot science en est venu à ne désigner, sans doute aussi par la volonté du prince, que les sciences du calcul, de l'observation et de l'expérimentation. Du coup, nous sommes séparés complètement les uns des autres. Maintenant, je vais avancer. Je ne peux pas développer tout ça, mais on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est les belles lettres. Donc, on en arrive à ce que je viens de dire. Je passe à conséquences pour la vie intellectuelle, vision bipolaire du savoir. Et maintenant, j'en arrive quand même à l'actualité et je dirais à ce que je vis moi en tant que chercheur dans la structure qui est la mienne, la Maison des sciences de l'homme et de la société. Ce n'est pas du tout cette dichotomie que je sens. Et ce que je voudrais montrer ici, c'est d'une part que le 19e siècle a commencé à faire bouger la donne parce que le massif des sciences humaines a émergé. Et il y a des tas de conférences qui ont eu lieu ici à l'espace Mendès France, hein, comment la géographie émerge, comment la psychologie petit à petit émerge de la philosophie. C'est tout à fait intéressant de les voir petit à petit s'individualiser et recevoir, par exemple pour la géographie, je me souviens très bien, Anne, d'une conférence où il était question de la guerre de 1870 et comment la guerre de 1870 a donné l'essor aux chaires de géographie en France. Pourquoi, je ne me souviens plus très bien, mais voilà, ces sciences humaines, la sociologie bien sûr aussi, l'anthropologie, l'ethnologie, tout ça sort. Et ce qui fait que dans ce paysage, vous avez tout d'un coup un tiers massif qui petit à petit s'individualise. Alors, voilà, donc, qu'est-ce qu'il en est pour moi ? Mais à la MSH, vous voyez, je suis dans le secteur des sciences du langage. Mais dans un bureau à côté, il y a des psychologues cognitivistes qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui peut être apprentissage, par exemple, du langage, mais aussi étude de ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on donne une tâche par le langage et qu'il faut remplir cette tâche. Je ne développe pas beaucoup plus, mais il y a évidemment un certain nombre de programmes qui nous sont, par exemple, communs. Mais les psychologues cognitivistes sont eux-mêmes en relation de contiguïté avec les neurosciences, ce qui fait que dans certains cas, dans une équipe voisine de la mienne, qui est le CERCA, il y a des gens qui sont plus près de ça que de ça, ou qui travaillent en fait dans cette nébuleuse-là et qui parfois viennent par exemple des neurosciences et qui sont dans un laboratoire principalement de psychologie cognitive. Et les neurosciences elles-mêmes sont en contiguïté dans certains cas avec la biologie moléculaire. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une dichotomie, mais beaucoup plus dans une sorte de contiguïté et dans certains cas, j'ose l'espérer, dans une forme de fécondation mutuelle. Puis de l'autre côté, évidemment, comme j'étudie le langage, je suis en relation avec les littéraires. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, je décris la langue des textes littéraires, tout simplement. La manière dont un auteur mobilisent les possibilités du langage et les mettent en œuvre. Donc il y a ici des liens. Et ensuite, évidemment, la littérature a des connexions avec l'histoire. Donc je pense que nous sommes beaucoup plus maintenant dans un paradigme continuiste et pas dans un paradigme de type dichotomie. Donc je voudrais juste faire une toute petite observation. Regardez le campus de Poitiers. On ne peut pas faire plus net. L'architecture est tout à fait. L'architecture dit tout. Vous allez sur le campus, il y en a qui le connaissent. Bon, vous avez une grande avenue qui fait moins avenue maintenant, mais qui à l'époque était un vrai boulevard. C'était même une route, c'était la route de Chauvigny. À gauche, vous aviez le droit et les lettres, et à droite, les sciences. C'était marqué dans l'architecture. Il y a quelque chose de ça qui demeure. Donc à l'époque où j'étais directeur de l'école doctorale de sciences humaines, économiques et sociales, j'avais des discussions avec mon collègue de sciences de l'ingénieur. Et on s'amusait beaucoup parce qu'il était assez sensible à tout ce qui est du domaine du langage. Et il me disait parfois, mais finalement, je pense que notre cerveau ne fonctionne pas vraiment différemment quand on est à notre lieu de travail. Alors là, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Je lui ai dit, mais c'est parce que tu en doutes. Évidemment que dans le cerveau d'un linguiste et dans le cerveau de quelqu'un qui étudie, lui, c'était un spécialiste des métaux. Enfin, si vous voulez, des alliages, vous savez, qui permettent des choses extraordinaires, comme par exemple que des pantographes de locomotrices ne chauffent pas complètement quand ils sont en contact à 300 à l'heure avec la caténaire. Donc il étudiait essentiellement les surfaces et les frottements. Je lui disais, je ne suis pas très sûr que moi, quand j'étudie un texte et que je regarde comment un mot se comporte, ce soit tellement différent finalement ce qui se passe dans mon cerveau. Voilà. Alors j'en suis déjà presque à la fin. Il y a des choses bizarres. Par exemple, ça, c'est quoi ? Pourquoi c'est dur ? Y a-t-il des sciences molles ? Et puis alors, vous avez les lettres et les sciences humaines. Alors, est-ce que les lettres ne sont pas des sciences humaines ? Ça veut dire quoi, cette affaire ? Et quel est le sort, finalement, ailleurs, humanidades en espagnol, ça fonctionne beaucoup, par exemple, dans les universités d'Amérique latine, humanities. Donc, nous sommes actuellement dans une espèce de vide lexical, dont peut-être le cas le plus extrême est celui-ci. Là, il y a un antonyme caché. Qu'est-ce qu'on dit ? Sciences fondamentales et appliquées. C'est comme ça que s'appelle notre UFR de sciences. Fondamentales et appliquées. Voilà, alors je rappelle un certain nombre de ces tenaces incompréhensions. Les lettres ne sont pas exactes. Les sciences sont seules dotées de résultats vérifiables. Les lettres ne servent à rien pour la société. Elles sont bonnes pour ceux qui n'ont pas l'acuité intellectuelle suffisante pour les sciences. Je crois qu'il faut donc essayer de réécrire les préjugés. Et je vous propose d'en réécrire quelques-uns. Donc je voudrais terminer là-dessus. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même quelques doctorants plus nombreux que ça. Mais je crois que ce dont nous avons constamment besoin, c'est de nous féconder mutuellement. Alors, je voudrais donner deux cas. C'est pas tout à fait tous les mois, mais très souvent, je vais écouter des soutenances de thèse, pas complètement, mais au moins le discours, dans d'autres disciplines que les miennes, en psychologie cognitive ou à Migrinter, chez les géographes spécialistes des migrations. Et j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement fécond. et que j'espérais être moins bête comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit si fréquent que ça. Et l'idée m'en est venue peut-être encore plus quand je suis revenu d'Angleterre, il y a 5 ans à peu près, où j'avais passé quelques mois dans un collège, Churchill College à Cambridge, et où j'avais vu vraiment ce que c'était que de manger à la table commune avec un architecte, une économiste, un spécialiste de sciences médicales, et ensuite un mathématicien. Et dans ces échanges, je crois qu'il passait quelque chose. Et alors, une question assez insistante m'est venue, je voudrais terminer là-dessus. Comment se fait-il que l'Université de Cambridge a eu autant de prix Nobel que la France entière? Est-ce que c'est seulement l'argent? Parce que là, c'est sûr, il y en a, je peux l'attester. Il suffit que vous alliez voir le centre de mathématiques de Cambridge. C'est une splendeur. Rien que sur le plan architectural, c'est fabuleux. C'est un campus à lui tout seul, quoi. On a vraiment l'impression de jouer dans la cour des petits quand on a vu ça. Mais je me demande quand même si dans cette structure collégiale, où en permanence se côtoient des gens de spécialités différentes, dans un cadre informel, je me demande si dans ce type de dialogue, parfois, vous savez, le cerveau a besoin comme ça de rebondissements pour sortir de ses ornières. Et donc, en écoutant quelqu'un, même d'une façon distraite, quelquefois, par une série de rebondissements, vous allez trouver une solution que vous n'aviez pas forcément trouvée. Je voudrais terminer par... je ne sais pas si vous connaissez cette histoire très, très drôle. Bon, il faut quand même terminer par quelque chose d'un peu drôle. C'est l'histoire d'un homme qui a 17 chameaux et 3 fils. Donc, il veut donner la moitié de ses chameaux à l'aîné, le tiers des chameaux au second et le dixième de ses chameaux au dernier. Bon, ce n'est pas tout à fait comme ça, heureusement qu'on répartit l'héritage en France, mais restons dans la fable. Alors, il n'arrive pas parce qu'évidemment, rien de tout ça n'est divisible. Arrive le cadi qui dit « c'est pas grave ». Je te donne mon chameau, je te le prête, pardon. Donc 18, très bien, vous divisez par 2, 9, l'aîné a 9 chameaux. Ensuite, vous donnez le tiers de 18, donc qui est 6, 9 et 6, 15. Et puis ensuite, vous donnez le neuvième au dernier fils, ça fait 2. 9 et 6, 15, 16, 17. Et puis ensuite, le cadi repart en disant bah, « c'est bien, je reprends mon chameau ». Et le partage a été fait. Donc, cet apologue que je trouve très, très, très drôle nous dit parfois qu'il faut sortir de notre précaré pour essayer d'y voir clair. Et j'espère que modestement, par l'éclairage de l'histoire, quelque chose des déterminations que nous avons parfois subies avec quelques pertes seront vues autrement. Je vous remercie pour votre attention.
Alors, y a-t-il des questions ?
C'est davantage une observation qu'une question. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une forme de dépit dans ce que vous venez de dire, des littéraires par rapport aux scientifiques. Premièrement. Deuxièmement, vous avez oublié dans votre démonstration les juristes et les médecins. Vous les classez nulle part, ce qui prouve vraisemblablement votre embarras. Vous avez des observations ? Merci.
Alors, tu réponds ?
Bien sûr.
Bon, je ne sais pas si tout le monde a le sentiment que j'ai exprimé ici beaucoup d'acrimonie ou de quoi que ce soit, alors que je me suis fait au contraire l'apologiste du dialogue entre les disciplines. Deuxièmement, dans une conférence d'à peine une heure, il est assez difficile de parler de tout. Or, je vous ai dit comment les lettres et les sciences, c'était ça mon propos. Donc, je n'ai pas parlé de l'Académie de médecine pour la raison que ce qui m'importait surtout, c'était de jeter, de prendre le projecteur, de ne pas éclairer tout, parce qu'en une heure, il est hors de question d'éclairer tout, mais de regarder simplement comment deux pôles s'individualisent au XVIIe siècle, comment au XVIIIe siècle, ils entrent dans une relation de polémique mutuelle. Ce n'est pas mes tripes que j'ai exprimées, mais ce que j'ai vu dans ces textes, c'est tout à fait différent. Un scientifique, en principe, ne passe pas son temps à mettre ses tripes dans son travail, mais il fait ressortir ce que l'objet dit. Je crois que, en ce qui me concerne, je n'ai pas dit autre chose que je suis content de féconder mes approches de celles des autres. Donc, je ne sais pas si je me suis fait mal comprendre, mais il me semble que mon propos n'a jamais été ni polémique, ni à plus forte raison, venu en dessous de mon nombril, du côté de ce qu'on appelle les tripes.
Bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier pour votre conférence qui, il me semble, en vrai éloge de l'interdisciplinarité. Et bon, je suis obligé à faire une comparaison avec la réalité que je connais. Moi, je suis brésilien, je suis là, je suis doctorant à l'Université de Poitiers. Et bon, je suis professeur aussi au Brésil. Et souvent, aujourd'hui, le discours de l'interdisciplinaire est bien accepté un peu partout, mais dans la pratique administrative, on trouve encore des problèmes. Même pour associer les intérêts par exemple, pour faire des recherches communes, on trouve de difficultés administratives. Parce que, bon, chez nous, c'est au moins mon interprétation. Je crois qu'on n'est pas encore préparé pour travailler ensemble. La question que je vous pose, c'est comment vous voyez ici, si vous trouvez un peu ce décalage, comme je vois. Et l'autre question, c'est, je travaille avec la littérature, et je travaille avec un écrivain brésilien qui est médecin et écrivain. Il est plus connu comme écrivain que comme médecin. Et apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui sont aussi des écrivains. Et peut-être que c'est un peu cet exercice d'aller à la rencontre de... pas de la vérité, mais de l'opacité de la vérité et du travail, de l'exercice, de la réflexion, que parfois la médecine, travaille un peu différemment. C'est ça, excusez-moi. J'ai été long.
Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant dans les faits, puisque vous me mettez sur le terrain de la collaboration, pas seulement de l'échange intellectuel, mais de la collaboration. Je ne voudrais pas du tout dorer trop le paysage. Je vous ai simplement signalé qu'il y a des équipes qui étaient du côté du laboratoire de psychologie cognitive. Vous avez quelqu'un à côté derrière vous qui en fait partie, mais c'est vrai qu'il y a une vraie contiguïté, au point d'ailleurs que certains de ce laboratoire, si je ne me trompe, font partie de la même direction scientifique CNRS que des gens qui sont, si je ne me trompe, en neurosciences. Mais je voudrais vous donner un exemple qui est peut-être le plus proche. C'est dans le cadre du contrat de plan État-région, vous avez un programme qui s'appelle patrimoine, e-patrimoine, c'est-à-dire en fait patrimoine virtuel, patrimoine en ligne, patrimoine numérisé. Et là, vous avez à la fois des gens qui travaillent dans le laboratoire SIC, qui est présumé être un laboratoire de science, puisqu'il est un laboratoire de traitement du signal, et tous ceux qui s'intéressent au traitement de l'image et au traitement du son du côté du patrimoine. Par exemple, le Centre d'études supérieures sur le CESCM, Civilisation médiévale, travaille avec des gens du SIC. Enfin, en tout cas, ils ont une masse financière commune dans laquelle ils puisent et qui est autour du traitement de l'image, par exemple. Et on pourrait dire la même chose pour le traitement du son, par exemple. Donc ça arrive. Quand je dis qu'il ne faut pas dorer trop le paysage, c'est simplement pour dire qu'on ne trouve pas en France tant que ça de ces collaborations de part et d'autre de la Grande Avenue dont j'ai parlé tout à l'heure. L'autre chose, c'est ce que vous dites sur les médecins. Moi, je suis d'une famille de médecins. Et il est vrai que souvent, et au-delà finalement de cette dichotomie, il y a des médecins qui ont continué à avoir une pratique beaucoup plus éclectique. C'est peut-être le secteur qui est en dehors, en quelque sorte, de cette opposition, qui, justement parce qu'il est excentré, parce qu'il est quelque part ailleurs, a, dans certains cas, effectué des rencontres ou des transversalités fructueuses et fécondes. Vous avez raison, je crois.
C'est intéressant cette remarque sur les médecins, parce que je pense en effet aux écrivains tels que Céline, etc., puis Mendoza aussi, qui est un médecin, qui est psychiatre. Mais il y a aussi une tradition de naturalistes, d'écriture dans les recueils des sociétés savantes, qui sont faits par des gens qu'on appelait les érudits ou les érudits locaux. Ces gens-là ont aussi une façon, ils sont obligés de rédiger, donc ils travaillent la langue. Et par exemple, les médecins font quand même partie aussi des notables. Donc ces notables étaient considérés comme des gens qui savaient écrire. Donc en dehors du fait que ce sont des médecins, qu'il peut y avoir des littéraires, des écrivains qui sont médecins, il y a sans doute aussi toute une tradition liée justement à la constitution des sociétés savantes, etc., locales, ou bon après qui sont aussi internationales, qui permettent de travailler en réseau et d'écrire. Donc il y a des choses très intéressantes par rapport aussi au recueil de météo, au recueil météorologique, c'était des naturalistes, etc. Donc je pense que peut-être qu'il y a quelque chose là, par rapport aux médecins qui relèvent d'une certaine caste sociale. Il y a peut-être quelque chose là à pointer. Après, pour les naturalistes, ce sont aussi des gens... Bah oui, c'était des médecins naturalistes qui allaient faire des relevés de météo, etc. Donc un savoir qui était très, très important, un savoir populaire, entre guillemets, mais très, très important aussi pour la science. Donc c'est un sujet intéressant, les médecins et la littérature. On va faire un colloque là-dessus. Madame, attendez.
Oui, oui, monsieur, j'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, si vous connaissez un peu la situation en Allemagne, cette opposition science et littérature. Ça m'aurait intéressé.
J'ai eu cette année des étudiants allemands qui faisaient une majeure et une mineure dans des disciplines qui sont... qui en France serait considérée comme relativement disjointe. Donc je crois que l'Allemagne a une position plus éclectique, moins tranchée que la nôtre. Si j'en juge rien que par les étudiants Erasmus que j'ai reçus. Et puis je ne sais pas, je ne crois pas du tout, par exemple, que le terme littérature en allemand n'a rien à voir avec ce que nous entendons par littérature en France.
Mais ce qu'on a dit aussi, mais on pourra en parler des heures, parce qu'on y réfléchit aussi ici, c'est l'impact des sciences pour l'ingénieur. veut dire qu'en France, il y a les grandes écoles, il y a l'université, etc. Donc on veut faire des ingénieurs. Donc il y a aussi un impact de la science qui est très important. Moi, j'étais dans un lycée normal, entre guillemets, à Lannion, et il y avait les ingénieurs du CNED, les enfants des ingénieurs du CNED, c'était tous en C, dans la classe scientifique. Et puis nous, on était en A. Et le proviseur passait, moi je me souviens très bien, en terminale, le proviseur passait dans les classes et disait aux scientifiques que c'était vraiment des petits génies qu'ils allaient réussir, et puis que nous, on était nuls, quoi. Enfin, dire, c'était vraiment ça, j'en ai un souvenir très marquant du fait qu'il passait dans la classe, j'aurais pu écrire la rédaction aussi, qu'il passait dans la classe pour dire aux élèves qui étaient déjà de toute façon programmés pour être de bons élèves, parce que c'était des enfants d'ingénieurs, qui faisaient grec, latin, etc., bien entendu, vous allez réussir dans la vie, et puis vous, les autres. Et je me souviens très bien, dans Terminal C, il y avait une enfant de même pas de paysan, ses parents, son père était handicapé, la seule de la classe, qui a eu son bac, qui a eu son bac C, donc chapeau, mais qui n'a jamais fait d'études après, parce qu'elle avait intégré le fait que de toute façon... Voilà.
Donc, ça, c'est
quelque chose qui était prégnant, puisque
ce sont des déterminations sociales,
ce sont des déterminations sociales
qui s'y ajoutent. Oui. Il y a Jeanne aussi.
Oui. Oui. J'avais une question à propos du branchement entre science et littérature. Enfin, je ne sais pas trop comment appeler ça maintenant. Et donc, à un moment, il y avait une argumentation sur le fait que le langage, le droit, tout ça, c'était subversif. Et c'est pour ça que ça ne plaisait pas au prince. Mais la science est subversive aussi. Alors, comment vous expliquez ça dans votre argumentation? Le fait que, la science a été, bien subventionnée au sens...
Oui.
La dichotomie entre science et littérature, il y a de la subversion dans les deux. Et en science, ça peut aller très loin aussi. Hein. Galilée, il y est pour quelque chose. Donc, je ne peux pas être d'accord avec cette argumentation. Avec d'autres, peut-être, mais pas avec celle-là.
Bon, je crois qu'il y avait peut-être une dose d'autocensure au XVIIe siècle parmi les gens qui travaillaient à l'Académie des sciences. Hein. Qu'il y ait des recherches qui soient dangereuses pour les dogmes, pour les obédiences, pour tous les discours fermés, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. C'est pas en tout cas comme ça que le voyait le pouvoir monarchique, parce qu'il a vraiment encouragé le secteur des sciences d'une manière extrêmement net. Hein. Donc, il a donné sa protection à l'Académie des sciences dès 1666. Et au fond, on peut dire que c'est l'abbé Bignon qui était l'émissaire, en quelque sorte, de Louis XIV pour ce secteur, qui a constitué cette Académie. Donc, il y a, de la part du prince, des Bourbons, une vision positive et finalement... utile de la science. Et je ne trouve pas trop, au XVIIe siècle en tout cas, la trace d'une crainte du pouvoir monarchique pour cela. Mais je suis d'accord avec vous, il peut y avoir des gens qui sont des iconoclastes dans les deux secteurs. Ce n'est pas ce que je vois dans ce que je lis pour le XVIIe et le XVIIIe siècle.
Oui, j'avais juste une remarque par rapport au mot littérature. Justement, je pensais en allemand avec littérature et literature en anglais, où c'est des termes qui vont pouvoir permettre de faire référence aux sources qu'on utilise aussi. Et je pensais à ce décalage de la matière à laquelle ça se réfère, au type de matériaux qu'on utilise pour chercher, et à ce décalage-là aussi, qui est un petit peu en français, mais il me semble beaucoup plus rare.
Et très récent. Ça fait partie du jargon de la science, le fait de dire « j'ai passé en revue toute la littérature sur le sujet ».
Hein. C'est ça.
Donc ça, je pense que là, justement, ce que tu dis sur littérature et literature, ça montre bien justement que la taxinomie, si vous voulez, la classification des connaissances n'a pas du tout la même configuration en Allemagne et au Royaume-Uni à cette époque-là. Hein. Donc ce tropisme du mot littérature vers ce qu'on en connaît aujourd'hui, hein, ce que j'ai dit au début, c'est très spécifique à la France et on le voit très, très nettement dans le fait que literature, pendant très longtemps, a une acception beaucoup plus vaste que littérature en français. Et je vous l'avais dit aussi pour science, pour philosophy, tout ça, c'est un autre comportement plus éclectique, différent au Royaume-Uni. Et littérature est complètement, complètement ailleurs. Et finalement, c'est cette acception allemande que d'une certaine manière on a appliquée quand on dit dans notre jargon de scientifique, j'ai lu la littérature sur le sujet.
Oui, où les enseignants donnent la bibliographie qu'ils donnent, c'est littérature verzeichnis, ou c'est literature, ouais. Donc c'est, oui. C'est également appelé avec le terme littérature. Oui. Et la dernière remarque que j'aurais, c'est par rapport justement au titre, au découpage des domaines, si on étudie en Allemagne, on va être les sciences humaines, ça va s'appeler Geisteswissenschaft, donc c'est les sciences de l'esprit. Et si on étudie les sciences, alors je n'ai pas tout en tête, hein, mais de mon souvenir, c'est Naturwissenschaft, donc les sciences de la nature. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a toujours le terme commun de Wissenschaft finalement qui reste.
C'est ça, tout à fait.
Qui est en fait un substantif avec le mot savoir dedans, hein, aussi. Donc, dans les esprits, ça ne fait pas non plus tout à fait les mêmes découpages.
Absolument,
ça, c'est sûr.
Parce qu'il reste toujours une sorte de dénominateur commun, ou disons, il y a un signe qui reste englobant. De la même façon, comme je vous le disais, qu'en anglais, natural sciences, ça présuppose qu'il existe des sciences qui ne sont pas natural. Donc, ça laisse le champ ouvert à d'autres sciences. Ça, c'est tout à fait typique d'un éclectisme beaucoup plus prononcé. Hein. Et comme je vous le disais au début, je ne suis pas du tout sûr que ce soit que le destin de ces mots et aussi de la réalité en France soit à notre avantage.
Oui, mais c'est un peu décalé maintenant. Je voulais simplement intervenir après la remarque sur les médecins, je voulais dire qu'il en était de même pour les magistrats et les avocats, qui sont aussi qui peuvent être des ténors du verbe et de l'écrit de même.
Tout à fait.
Bon, c'était la dernière conférence de notre cycle, donc je voulais remercier M. Rigalo de nous avoir permis, directeur d'école doctorale, d'avoir permis d'organiser ces conférences. Vous voyez, il y a toujours du débat. Bon, on a toujours grand plaisir à l'Espace Mendès France à préparer ces cycles et on espère continuer l'année prochaine et longtemps. Et merci beaucoup, Philippe, et puis merci au public pour le débat de ce soir. À plus tard, au revoir.